Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Fréquence Mistral, lycéens, lycéennes confinés. Je vais vous parler aujourd'hui de l'hyperpuissance américaine et ses limites depuis 1945. Et pour ce faire, on va faire comme une étude de documents au bac, c'est-à-dire qu'on va prendre deux documents, une question, l'hyperpuissance américaine et ses limites depuis 1945. Donc, le premier document que je vais prendre, c'est un tableau d'Andy Singer, un Américain, qui l'a fait en 1998, donc dans un contexte bien particulier où les États-Unis étaient la seule puissance économique mondiale, la seule puissance culturelle, la seule puissance militaire après l'effondrement de l'Union soviétique et du bloc communiste. Donc ce D-Day, comme il appelle son tableau, fait référence donc au 6 juin 1944, le débarquement de Normandie. Alors, je vais m'arrêter un tout petit peu sur Andy Singer, qui est à l'époque un jeune dessinateur de comics, qui fait surtout des images en noir et blanc. C'est un indépendant, il est favorable à la décroissance. Son œuvre critique souvent le monde moderne, la technologie, la surindustrialisation. Vous pouvez regarder ses œuvres dans différents livres qui sont à votre disposition. Donc, cette référence au 6 juin 1944, j'en discuterai par la suite. Donc si je regarde cette image, et vous pouvez aller sur Google pour regarder cette image, donc D-Day de Andy Singer, comment est-ce qu'elle se présente? Dans ce premier plan, celui qui est en bas bien sûr, vous avez Mickey Mouse en militaire, souriant, avec sur son revers militaire l'écusson de Nike, qui repousse avec son M16 une famille, peut-être de latino-américains ou de latinos, qui a les mains sur la tête et qui est effrayé parce qu'il n'a pas le choix. Dans le deuxième temps, nous avons une péniche de débarquement, comme celle qu'ont connue les soldats américains en Normandie, ou en Italie, ou en Provence, d'où débarquent des goofies avec des M16 et un Picsou en colonel qui commande le débarquement. De l'autre côté, donc sur le côté droit de l'image, vous avez un palmier ou encore un homme et un enfant levant les mains avec un visage effrayé. Enfin, au troisième plan, vous avez un civil mort, désarmé, des télévisions qui jonchent le sable avec des box de coca, des soldats qui, comme à Iwo Jima, plantent un drapeau sur lequel il n'y a pas Stars and Stripes, c'est-à-dire le drapeau américain, mais l'écusson, le logo de Microsoft. Et de l'autre côté, côté gauche, vous avez un croiseur avec un drapeau McDo, qui lance des bocs de Coca-Cola comme des missiles et une péniche de débarquement Shell avec d'autres Goofy qui en débarquent. Donc ça, c'est pour le premier dessin. Pour le deuxième dessin, c'est un dessin français d'un dessinateur qui s'appelle Deligne, qui est un dessinateur, un caricaturiste de presse française. Ce dessin est paru le 20 mai 2019, donc de l'année dernière, dans le journal La Croix. Il illustre un article d'Alain Guillemot sur la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et notamment la dénonciation de la stratégie agressive de la FTN chinoise Huawei par Trump, et son accusation par le président des États-Unis donc d'espionnage du fait de cette entreprise. Donc cette image, ce dessin de presse se présente de la façon suivante. Donc deux personnes sur la gauche assistent en parlant en français et ils disent, tiens, c'est Game of Thrones, non, c'est une guerre commerciale, sinon américaine. Et qu'est-ce que l'on voit en deçà de cette image? On voit donc un chevalier américain avec une épée et le drapeau États-Unis sur sa poitrine, et un bouclier avec le signe de Google. Et de l'autre, un dragon méchant crachant du feu, orné d'un drapeau de la Chine populaire avec un signe de la FTN chinoise Huawei. Donc, ce qui veut dire que les États-Unis ne sont plus les seuls. Alors, comment aborder un sujet comme ceci? Eh bien, la première chose, c'est bien sûr d'étudier le terme du sujet. Hyperpuissance américaine et ses limites depuis 1945. Donc le terme d'hyperpuissance vient du ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine, qui avait qualifié les États-Unis d'Amérique ainsi d'hyperpuissance après l'effondrement du bloc communiste et la fin de la guerre froide en 1992. Je planifierai moi le plan en trois parties. La première, c'est celui de l'image qu'Andy Singer revoit avec le passé proche, c'est-à-dire celui de 1944. Donc en 1944, les États-Unis sont à la fois ont à la fois un hard power, puisque c'est la puissance militaire du moment. Sur le front de l'Ouest et en Asie, ce sont les Américains qui commandent. Les États-Unis sont l'industrie d'armement de ce qu'on appelle déjà les Nations Unies, y compris de l'Union soviétique, à qui ils offrent moult jeeps, munitions et compagnie. Les États-Unis sont le pays qui a permis de vaincre les forces de l'Axe, d'abord l'Italie, puis ensuite l'Allemagne, pour enfin terminer par le Japon. Bien sûr, avec le soutien des millions de soldats soviétiques ou anglais ou français qui sont morts ou qui ont combattu lors de ce conflit. Andy Singer utilise cette image positive des GIs américains et du Marines américain par les péniches, les avions corsaires du Pacifique, l'évocation d'Iwo Jima. Le soldat américain est donc vainqueur, il apporte avec lui la liberté, il apporte avec lui la culture, les sucreries. Il fait référence à Mickey Mouse et Coca-Cola qui montrent dès 1945 la domination culturelle, l'attraction des produits Made in USA, synonyme pour les populations dominées de 40 à 44 par les nazis, de liberté, de bien-être, de retour à une vie normale. Cette image du hard power et du soft power des États-Unis a duré en Occident jusqu'à la guerre du Vietnam pour les Américains et pour leurs alliés. Seuls dans les années 50, début des années 60, les communistes ne partageaient pas cet avis et se sont opposés, par exemple en France, au plan Marshall ou à Mickey Magazine pour créer leur propre journal pour jeunes, Pif Gadget, ou à l'OTAN aussi, ou à la CE par la suite. Donc le Vietnam, plus le coup d'État contre Pinochet en 1973 contre Salvador Allende, ont sérieusement remis en question cette réalité de 1944-45 plutôt positive. Les États-Unis sont revenus en hard power sous Reagan avec son célèbre slogan America's Back. Mais la critique est venue, comme dans les années 60, des chanteurs, des artistes comme Bruce Springsteen avec son Born in the USA, qui n'est pas une ode au patriotisme américain comme peuvent le croire les non-anglophones. Donc dans un deuxième temps, je parlerai de 1992, de la période 1992 à 2000. Donc en 1992, la guerre froide est gagnée par chaos par les États-Unis. Ils sont les seuls gendarmes, ils sont loués comme tels dans le monde, appelés comme tels dans le monde. Quand Saddam Hussein envoie le Koweït, la seule puissance qui peut le renvoyer chez lui, c'est bien sûr les États-Unis. Les Croates, les Bosniaques et les Serbes se massacrent allègrement dans les zones de l'ex-Yougoslavie, bien sûr, les soldats français partent en opération. Bien sûr, on a des casques bleus, mais véritablement, ceux qui font pencher la balance du côté de la paix dans cette zone, c'est bien sûr l'intervention américaine. Andy Singer critique ce hard power, mais aussi le soft power qui l'accompagne, cette ultra-domination américaine. Internet avec Microsoft. Microsoft est devenu célèbre parce que Microsoft a permis au quidam que je suis en informatique, de sortir du MS-DOS et du DOS et de pouvoir, avec une petite icône, aller sur n'importe quel programme informatique. Quant à l'acculturation, par l'emprise de grandes entreprises américaines, il n'y a qu'à voir les ponts d'or qui ont été faits à l'époque en région parisienne pour que Disney vienne s'installer en France, cette primauté de Nike et des autres entreprises, ou par exemple aussi de la télévision et des émissions émissions télévisées d'influence américaine. Les pauvres, donc ceux qui sont mis de côté, par exemple par Andy Singer, eh bien les pauvres, ce sont tous ceux qui ne veulent pas se rendre à cette domination. Ça peut être bien sûr un latino, mais ça peut être aussi un José Bové qui démonte un McDo à Millau. Ça peut être aussi quelqu'un qui refuse d'acheter des produits américains ou des produits de la mondialisation pour aller vers une économie plus solidaire et plus local. Vous avez quand cependant une domination incroyable du monde anglo-saxon, dû au fait que ce soit les États-Unis d'Amérique qui ont dirigé le monde quasiment seul de 1992 à 2001. La règle est la suivante: tu es avec nous, tu es contre nous. Et si tu es avec nous, tu es in, et si tu es contre nous, tu es out. La langue économique, c'est l'anglais. La langue informatique, c'est l'anglais. La langue diplomatique, c'est de plus en plus l'anglais. Et quand une présidente de la Commission européenne s'exprime sur Internet, vous remarquerez que même après le départ des Britanniques, c'est toujours en anglais qu'elle s'exprime. Voilà. Et puis on a un président qui adore montrer qu'il parle parfaitement l'anglais. Donc la culture américaine est dominante depuis 1945. En fait, rien n'a véritablement changé. On est passé du rock au pop, à la disco, au grunge, au rap, au R&B, tout ça vient des États-Unis d'Amérique. Le soft power s'est installé et domine le monde. Même Al Jazeera, c'est sur un modèle de CNN. BFM est sur un modèle aussi de chaîne américaine. L'élection d'un président américain devient mondiale. Le Yes We Can de Obama est devenu mondialement célèbre et son élection a été applaudie partout. Et que dire encore de Trump, qui peut être un modèle pour Bolsonaro, pour des Orban, et dans le langage, pour un certain nombre de régimes autoritaires à travers le monde. Donc, en troisième partie, je mettrai les limites de ce modèle. Alors, ces limites, bien sûr, dans une copie, on pourrait marquer l'échec de la politique en Irak. On pourrait parler aussi de l'échec en Afghanistan. On peut parler aussi de la montée en puissance d'un certain nombre de pays, et notamment la Chine populaire, notamment depuis Xi Jinping. Et cela fait maintenant en explication à peu près 20 ans que le Pacifique est devenu central pour la politique diplomatique de Washington. Trump fait une guerre avec Xi Jinping non pas pour le monde libre mais pour les intérêts des États-Unis. En l'absence de l'Union européenne, puisque l'Union européenne est divisée en 27 pays qui n'arrivent pas véritablement à s'entendre, la Chine est le seul pays qui économiquement est un risque pour la domination américaine. De là le soutien américain à tous les pays asiatiques qui luttent contre cette entreprise chinoise, cette stratégie chinoise du collier de perles, des routes de la soie, par des accords notamment bilatéraux entre les États-Unis et le Japon, les États-Unis et l'Inde, même les États-Unis et le Vietnam. Et le combat de Microsoft contre Huawei, c'est le combat pour l'intelligence artificielle dans laquelle les deux puissances se sont lancées depuis maintenant 10 ans. Trump ou Xi Jinping jouent la domination future du monde. C'est ce combat-là, et les Européens qui sont sur cette image sont des spectateurs. Le reste du monde observe ce combat et ne peut en fait que l'observer du fait de sa profonde division. Je rappellerai les paroles de Machiavel, diviser pour mieux régner. Et en fait, ils n'ont plus qu'une seule chose à faire, c'est soit choisir leur camp, soit attendre le vainqueur pour le choisir. Donc, au XIXe siècle, les Anglais disaient souvent que celui qui maîtrise les mers maîtrise le monde. Et les Américains ont fait ça. Il suffit de regarder une carte avec les différentes flottes américaines à travers le monde, les différents pays alliés des États-Unis à travers le monde, et vous rendrez compte que, oui, effectivement, on peut limiter le pouvoir des États-Unis d'un point de vue économique, mais d'un point de vue politique ou diplomatique, ils sont encore dominants. Donc, je rajouterai quand même, et ça c'est quand même une des choses qui nous apparaît depuis maintenant près d'un mois, c'est que celui qui maîtrise la production maîtrise aussi le monde. En conclusion, qu'est-ce que je dirais dans un exercice de ce type? Eh bien, je dirais que les États-Unis sont encore la grande puissance économique et culturelle et diplomatique du monde. Seulement, ce qui apparaît, et c'est ce que montre le deuxième document, c'est qu'elle est de plus en plus remise en question par d'autres puissances qui montent, et notamment la Chine. Ce qui est important aussi à souligner dans une étude de document et en conclusion, c'est que la grande puissance américaine réside dans le fait que les critiques se font aussi en son sein. Pete Seeger comme dessinateur, ou avant dans les années 60, Bob Dylan, ou encore Martin Luther King, ou Malcolm X, tous ces personnages américains ont critiqué de l'intérieur le système américain. La Chine n'a pas cette chance, et ceci pour une seule raison, c'est une dictature. Les seules critiques chinoises qui peuvent se faire sont soit dans les Laodai, soit à l'étranger en exil. Voilà comment on pourrait terminer. Donc le 21e siècle sera un monde certainement multipolaire, mais encore apparemment encore dominé par les États-Unis d'Amérique. Voilà, chers élèves, chers auditeurs, ce que nous pouvions dire sur cette expérience un peu bizarre de vous présenter deux documents à la radio. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon, une très bonne journée, un très bon confinement, et puis à très bientôt, j'espère, en vrai. Voilà. Au revoir. À lundi.